Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence, merci d'être fidèle à Vivante Église. Nous reprenons aujourd'hui notre série d'émissions « Deux traditions et un sens » où sont mises en regard les traditions juives et chrétiennes en partant des textes bibliques. Il s'agit de montrer les convergences et les différences qu'il peut y avoir entre elles dans le cadre d'un dialogue que nous souhaitons à la fois éclairant et porteur d'une espérance commune. Ce numéro va être consacré au livre des Proverbes et plus précisément au 22e verset du chapitre 8. Je suis heureux de retrouver les deux intervenants récurrents de cette série, ceux qui ont choisi les textes autour desquels ils dialoguent durant ces émissions. Je salue Ephraim Tettelbaum, membre de la communauté juive de Toulouse, ex-délégué régional du Fonds social juif unifié, et je salue le père Édouard Divry, frère dominicain, docteur en théologie et professeur d'hébreu. J'ajoute que vous avez été délégué diocésain pour les relations avec le judaïsme à Toulouse et à Montpellier, et que vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur la question. Aujourd'hui, vous avez donc choisi le livre des Proverbes et son chapitre 8 qui en compte 36. C'est le 22e verset de ce chapitre 8 qui va nous intéresser tout à l'heure. Avant cela, pour introduire le sujet, je vais vous demander de rappeler à nos auditeurs ce qu'est le livre des Proverbes, que sait-on de son origine et que nous enseigne-t-il, sur quel modèle est-il conçu ? Père Édouard.
Merci beaucoup pour cette récurrence. Je salue d'abord tous les auditeurs. C'est vrai que le livre des Proverbes est construit avec différents chapitres, par exemple de 1 à 9, 10 à 24, etc. Mais le tout est fondé à travers le concept de sagesse. C'est la sagesse qui est au cœur de ce livre. Pourquoi ? Parce que la sagesse, si vous voulez, est au-delà d'une orthopraxie et d'une orthodoxie. Une orthopraxie, c'est l'art de bien agir, l'orthodoxie, c'est l'art de bien professer sa foi, mais il faut que ce soit vivant, il faut que ce soit dans le discernement, il faut que la relation soit réellement emprise par le contact avec celui qui nous a créés, celui qui nous a donné la vie, c'est le Seigneur. Et tout du long du livre de la sagesse, on nous apprend comment bien discerner finalement. C'est ça le but, c'est-à-dire une remise de soi dans le Seigneur, dans sa capacité à nous faire vivre les 10 paroles de Dieu, les commandements, à être comme ajustés à la volonté de Dieu. Je vous lis par exemple dans le Proverbe 20-24, « Aux yeux de l'homme, toutes les voies sont droites, mais Dieu pèse les cœurs. Dieu dirige les pas de l'homme, au Proverbe 20. Comment l'homme comprendrait-il son chemin ?» C'est donc ce contact avec Dieu, je dirais, qui fait l'homme sage. Et toute la Bible est riche de ces récurrences avec la sagesse. Souvenons-nous, nous avons déjà dans les psaumes de nombreux rapports à la sagesse. Et puis, nous avons dans les écritures chrétiennes de l'Ancien Testament, le livre de la sagesse lui-même, qui est un éloge de la sagesse. Vous avez en particulier le Siracide, l'Ecclésiastique, dont on a retrouvé finalement des parties en hébreu et qui pourraient très bien être réattachées au grand canon juif des livres hébraïques, dans lequel il y a le discours de la sagesse. La sagesse fait son propre éloge, est-il écrit, au milieu de son peuple. Elle montre sa fierté. Dans l'assemblée du Très-Haut, elle ouvre la bouche. Devant la puissance, elle montre sa fierté. « Je suis issu de la bouche du Très-Haut », est-il écrit. « Et comme une vapeur, j'ai couvert la terre, j'ai habité dans les cieux, et mon trône était une colonne de nuée. Seul, j'ai fait le tour du cercle des cieux, j'ai parcouru la profondeur des abîmes, dans les flots de la mer, sur toute la terre, chez tous les peuples, et toutes les nations j'ai régné. Parmi eux tous, j'ai cherché le repos, j'ai cherché en quel patrimoine m'installer. » Et voilà, c'est nous qui sommes ce patrimoine si nous voulons bien obéir à Dieu.
Ephraim Tettelbaum.
Amen. Très belle ouverture de notre sujet. Et je voulais juste resituer les choses. Une fois le pays de Canaan est conquis par Josué Ben Noun.
Donc Canaan. Conquis par Josué, je traduis en langue courante.
Voilà. Et donc, moi, je suis hébraïsant, donc pour moi, je parle en hébreu. Alors, dès que cette conquête fut achevée, si on peut dire, 90%, donc la terre était divisée parmi les 12 tribus. Et après une période de juge, à partir du prophète Samuel, à la demande du peuple, il nomme un roi, Shaoul, de la tribu de Benjamin. Maintenant, celui-là était éphémère et on entre dans la période de deux très grands rois d'Israël. À l'époque, il n'y a pas encore la distinction entre les royaumes d'Israël du nord en Samarie et les royaumes de Juda au sud avec la capitale Jérusalem. C'est le roi David et le roi Salomon. Le roi David compose les psaumes. Son fils, le roi Salomon, Shlomo, il compose des livres, Michelet, les proverbes, et Kohelet, l'Ecclésiaste. Ces deux livres se ressemblent et ils traitent, comme disait le père Édouard d'Ivry, de la sagesse. Et en réalité, les livres des proverbes, c'est un conseil aux simples d'esprit, c'est-à-dire les gens pas très intelligents, les gens de la rue, comme on dirait aujourd'hui, et les érudits, et les jeunes et les plus âgés. Chacun à sa place, c'est un texte disparate, pas beaucoup de liens parfois entre les versets. Et les premiers, Michelet, c'est-à-dire Machal, c'est les proverbes en hébreu, et lui, il traite des comportements humains et les conseils comment se conduire dans la vie pratique. Et Kohelet, Ecclésiaste, traite plutôt d'une philosophie de la vie. Par exemple, quand il dit « Hevel havalim akol hevel »,« Vanité, tout est vanité », etc. Oui. Il commence comme ça. Tout de suite, il se présente. Kohelet, c'est fils de David, c'est-à-dire Salomon. Et les premiers versets, c'est ça. Tout est vanité en réalité. Voilà de quoi on parle. Alors, à l'intérieur de ça, qu'est-ce qui se passe? Et je pense qu'on va entrer dans le chapitre 8, mais j'imagine pourquoi le père d'Ivry a choisi le chapitre 8.
Ça, on
sera au cœur de notre divergence. Enfin, divergence. Un point de vue juif, moi j'ai les textes devant moi, j'ai les lions d'hébreu, et je sais de quoi il s'agit. C'est-à-dire que, comme je disais un jour, la Bible était écrite par quelqu'un avec les lunettes bleues, et on essaye de nous traduire ça avec des lunettes avec des couleurs différentes. Alors, donc, il y a une dichotomie légère. Mais on ne diffère pas, quand même sur l'essentiel, bien qu'on diffère sur quelque chose qui est essentiel aussi, en effet, mais on le dira tranquillement, et je trouve qu'on peut se féliciter de notre
convergence.
Convergence, et exactement ça, c'est le mot, convergence et notre vue commune sur l'humain et son lien avec la sagesse de Dieu et Dieu.
Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, ne méprise pas l'enseignement de ta mère. C'est comme ça que commencent les premiers passage du prologue sur la vraie sagesse, et pour nous c'est important parce que d'emblée on est mis dans le fait qu'il y a une transmission, c'est notre père, c'est notre mère qui nous ont transmis les bonnes réalités pour vivre, ces commandements pour vivre dans le sein familial, comment se comporter, comment être révérent par rapport à son père, par rapport à sa mère et par rapport à l'auteur de toute chose, Dieu. On apprend sur les genoux de sa mère à dire nos premières prières. Et donc, c'est très important de comprendre que nous avons ça qui nous unit en profondeur.
Tout à fait. Mais cette phrase-là, elle est fondamentale. C'est la phrase 8. C'est le verset 8 des proverbes. En hébreu, c'est différent. Moi, j'ai la traduction du consistoire. Elle est à peu près celle-là. Mais en hébreu, c'est écrit différemment. Et je vais vous le lire. Parce que je pense que les anciens ont compris ça différemment. Les mots en hébreu ont un sens vraiment très profond. Voilà, Shema bni, Musar avicha. Écoute mon fils, non pas les remontrances, mais la morale, Musar, de ton père. Et écoutez ça, la fin, elle est phénoménale. Ve'al titosh, et ne quitte pas, n'abandonne pas, Torah timecha, la loi de ta mère. Vous vous rendez compte de quoi il s'agit? C'est-à-dire que le père, c'est celui qui structure de manière traditionnelle la famille, fait pas ceci, fait pas cela, il donne des limites, il maintient l'enfant dans les droits chemins, etc. Écoute ce que dit ta maman, écoute tes professeurs, respecte tout le monde, etc. Bref, le savoir-vivre entre humains. Mais la mère est la femme dans le judaïsme. Alors les chrétiens peuvent se féliciter, ce que je viens de dire, puisque Marie, c'est pas le père d'Ivry qui va me contester ma position. Mais la mère juive, elle a en elle la loi. Elle possède la loi dès sa naissance. Pourquoi? Parce qu'elle est réglée, etc., etc. Et donc, on dit dans le judaïsme, et donc on a mal compris, oui, on dit aux femmes, n'étudie pas, c'est réservé aux hommes. Mais Kenéni, la femme, elle n'a pas étudié quelque chose qu'elle connaît. Par contre, on dit à l'homme, toi, espèce d'idiot, tu connais que dalle, tu n'as rien en toi, tu dois apprendre. Voilà. Mais bien sûr que les femmes juives, elles apprennent. Bien entendu, ce n'est pas le problème. Mais voilà le sens profond de la chose.
Une question pour vous deux, si vous permettez. Le fondement théologique du livre des Proverbes pourrait être la crainte de Dieu qui serait le commencement de la sagesse.
Tout à fait.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
C'est le verset 7 du chapitre 1. La crainte du Seigneur, principe du savoir, les fous dédaignent sagesse et discipline. C'est-à-dire, c'est le contraste avec le monde. Dans le fond, qu'est-ce qui va nous introduire dans cette sagesse? C'est cette communication que nous recevons gratuitement de Dieu et à laquelle nous sommes tenus de nous tenir. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui fait un lien absolument, je dirais, vivant et structurel. C'est un peu, comme je disais précédemment, l'anneau vivant qui relie orthodoxie, orthopraxie. C'est ça, cette crainte de Dieu.
C'est tellement vrai que si on revient, et on a étudié beaucoup, y compris ici, Lévitique 19, toujours référence à Dieu. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et on oublie de dire, car je suis Dieu. Il s'est écrit. Parce que si c'est moi qui l'ai dit, ou nous, les êtres humains, bon, on peut contester. Tu as un avis, c'est une assumption. Très bien, on peut suivre, on ne peut pas suivre. Mais quand on dit, car je suis Dieu, ça fait référence à ce que vient de dire les Pères d'Ivry.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas relativiser.
Non, exactement.
Exactement. Et du coup, un peu plus loin, par exemple, Proverbe 11, 20, il est dit, celui qui est intègre dans ses voies, celui qui recherche le bien, ceux qui font la vérité, c'est-à-dire qu'ils sont instruits par cette source vivante. Dieu n'est pas seulement une liste de choses qu'il faudrait faire, comme une grammaire qui nous aurait été donnée un peu froide pour bien vivre ici-bas. Non, il y a un contact vivant avec Dieu et c'est ça qui est déterminant pour nous, pour nos deux traditions.
Ephraim Tettelbaum.
Ben, je suis d'accord tout à fait, je n'ai rien à ajouter à cela, c'est tout à fait juste, c'est-à-dire que sans cette présence divine, je veux qu'on m'explique le sens de la vie.
Oui, question qu'on peut se poser tous les jours d'ailleurs. Pour terminer sur cette façon de poser le décor de notre échange, l'importance du livre des Proverbes aujourd'hui dans la religion juive et dans la religion chrétienne, quelle est-elle? Est-ce que ça reste vraiment un ouvrage fondamental?
Dans les canons bibliques juifs, qui s'appelle Tanakh, Torah, Nevim, Ktuvim. La Torah, les cinq premiers livres, qui est l'enseignement. Torah veut dire enseignement, loi. Nevim, c'est les prophètes. Ktuvim, c'est les écrits, qui sont justement Michelet, Kohelet, Job, les livres d'Esther et d'autres. Et donc, les psaumes, tout cela fait la Bible. Tout est pour nous essentiel. Il n'y a pas un livre qui est plus important
qui
que l'autre.
Qui serait mineur et un autre majeur.
Il n'y a pas de mineur, il n'y a pas de majeur. S'ils sont là, ils sont majeurs. Et ils font référence à Dieu. Et moi, je n'aime pas les mots religion. La foi chrétienne, la foi juive. C'est moi, hein, là. Je ne parle pas au nom de Dieu, je parle au nom personnel. Nous avons une foi en Dieu. Nous avons le même Dieu. Nous sommes les seuls deux croyances dans le même Dieu. Il n'y a pas une troisième, il n'y a pas une quatrième, il n'y a pas. C'est comme les gens, il y a un homme et une femme, c'est simple. Et donc, si vous voulez, nous faisons référence à cela, les chrétiens font référence exactement au même livre, les canons n'est pas exactement les mêmes, puisqu'il y a les livres de Maccabée ou d'autres que j'oublie.
Que j'ai cité là tout à l'heure. Oui.
Voilà, exactement, qui sont attachés. Et puis il y a le Nouveau Testament, bien entendu, et les évangiles. Mais la base est la même, c'est pour cette raison-là que nous sommes ici.
Frère Edouard.
Alors moi, j'ajouterais seulement, en étant tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Ephraim, 100%, eh bien, dans l'éloge de la sagesse, il y a quelque chose de très grand, mais qu'on peut facilement perdre de vue. Il faut vraiment qu'il y ait des personnes qui se dédient à ce travail, sur ces textes. Par exemple, nous avons le frère Renaud Sy, au couvent des Dominicains de Toulouse, qui a fait un magnifique travail de thèse à l'École biblique et archéologique de Jérusalem, justement sur ces textes de la sagesse. Donc je crois que c'est important que nous ayons des chercheurs, parce que très vite on peut tomber en déficit par rapport à ça. Je me souviens une fois, j'interrogeais un des nouveaux cardinaux que le pape a créé il y a peu de temps, qui était professeur à la Grégorienne, il enseignait le droit canon. Je lui disais, mon père, c'est un peu curieux à la Grégorienne, c'est l'université pontificale jésuite à Rome, il y a un cours sur la tempérance, il y a un cours sur la justice, il y a un cours sur tous ces aspects, je dirais, de la vie morale, mais il n'y a pas de cours sur la prudence, sur le discernement. Et il me disait, oui, mais ça, c'est la vie pratique, donc on n'a pas besoin de faire de cours. Il y a les exercices de Saint Ignace, etc. Mais non, il faut aussi étudier, parce que sinon on perd de vue cette tradition qui repose donc sur cet appel, cet éloge de la sagesse. En effet, elle est un esprit, est-il dit au chapitre 7, un esprit intelligent, sain, unique, multiple, subtil, mobile, pénétrant, sans souillure, clair, impassible, ami du bien, prompt, irrésistible, bienfaisant, ami des hommes, ferme, sûr, sans souci, qui peut tout, surveille tout, pénètre à travers tous les esprits, les intelligents, les purs, les plus subtils. Quelle admirable expression de la sagesse au chapitre 7.
Quelle liste !
Et si on la perd de vue, on va très vite dans le décor. Et on peut très bien, même au niveau ecclésial, même au niveau du sommet de l'Église, tout à coup, dérailler en profondeur.
Alors, pas seulement au sommet de l'Église, hein. Au sommet du rabbinat aussi, et donc les chrétiens ont l'air chercheurs, et le père d'Ivry fait un appel à la sagesse, à l'étude. Vous savez, les premiers chapitres de Josué, lorsqu'il organise son armée, l'armée dans son organisation, dont le peuple juif, est primordiale. Il y a des lois de la guerre, etc. Et lorsque, dans le livre de Josué, le chapitre 1, il dit, concernant la loi et la Torah, Vehagita bo yomam valaila, et tu l'étudieras jour et nuit. Et voilà l'appel. Et tu l'étudieras. Tu n'oublies pas. Alors, il me semble, des chrétiens, j'espère qu'ils sont nombreux, comme par exemple les dominicains, qui ont décidé que la sagesse et cette étude permanente du comportement humain et sa relation avec Dieu, on peut les voir dans la Kabbalah, la réception juive, est un appel permanent, non-stop. Et c'est ce que j'ai fait aussi. Concernant les judaïmes, nous ne sommes pas les seuls, hein, mais il y a des érudits chrétiens et érudits juifs qui l'étudient tout le temps. C'est un peu subversif, mais dans le bon sens du terme.
Eh bien, après cette introduction passionnante à ce que sont l'esprit et le modèle selon lequel est conçu le livre des Proverbes, je propose de faire une pause en musique avant de dialoguer autour du verset 22 du chapitre 8. Et à quelques jours de Noël, nous allons écouter un des airs célèbres du Messie de Handel, « For unto us a child is born ».
A child is born.
A child is born.
A child is born.
présence. Vivante Église, Éric Dupri.
Retour à l'antenne pour cette seconde partie de Vivante Église avec mes deux invités, Ephraim Tettelbaum, membre de la communauté juive de Toulouse, ex-délégué régional du Fonds social juif unifié, et Édouard Divry, frère dominicain, docteur en théologie et professeur d'hébreu, ex-délégué diocésain pour les relations avec le judaïsme à Toulouse et à Montpellier. Nous allons donc reprendre le dialogue en nous focalisant maintenant sur le 22e verset du chapitre 8, un des 9 chapitres dédiés à ce qu'est la vraie sagesse. Ce proverbe est le suivant: l'Éternel m'a créé. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Pourquoi avez-vous choisi précisément celui-ci pour notre dialogue du jour, frère Édouard?
Alors, c'est sûr que c'est un passage qui a fait couler beaucoup d'encre. Pour le christianisme ancien, c'était une des preuves trouvées dans l'Ancien Testament de la génération au sein même de l'identité divine, c'est-à-dire que Dieu génère en lui-même la Torah, Dieu génère en lui-même la sagesse, Dieu génère en lui-même une autre personne que lui-même, lui le Père, il génère le Fils. Et donc il y a eu des disputes surtout à l'époque de l'arianisme. L'arianisme, malheureusement, s'est emparé de cette traduction que, Éric, vous venez de donner, qui est une traduction donc tout à fait possible, qui vient de la Septante, mais qui peut être traduite d'une autre manière, comme après ces grandes luttes des premiers temps, saint Jérôme a voulu le rectifier, cette traduction, parce qu'il a dit « Attention, Canani, le Seigneur m'a créé, peut se traduire aussi dans une autre manière, c'est-à-dire m'a possédé ». Voilà, je vous lis la traduction de la Vulgate de saint Jérôme, donc au IVe siècle, après ces grandes disputes, je dirais, des moments qui ont précédé donc la traduction de saint Jérôme. « Le Seigneur m'a possédé, début de ses voies, avant qu'il eût fait quoi que ce soit, dès le commencement. » Et un peu plus loin, au verset 30, « J'étais avec lui, composant tout, et je me délectais tous les jours, en jouant devant lui en tout temps, en jouant dans la sphère de la terre, et mes délices étaient d'être avec les fils des hommes. » Ce sont ces versets donc qui ont structuré, si vous voulez, les premières disputes, et en particulier ce fameux Arius qui, ayant suivi le texte de la Septante, qui a tout à fait sa valeur, puisque ce texte de la Septante s'appuie sur un autre passage de l'Écriture qui est Genèse 14, 19, dans lequel, je vous lis le passage, « Dieu les bénit ». Je vous lis peut-être le texte même en hébreu, comme ça vous permettra de mieux voir que cette traduction était possible. Vayevareru, Vayi Omer, Barur Avram, Le'el Elohim, Kone, Shamaim, Varetz.
El
Elyon, exactement. Et donc « connaît », c'est le verbe même utilisé donc dans ce passage de la sagesse au chapitre 8, verset 22. Donc il y avait une légitimité à cause tout simplement des grandes traditions, je dirais, de l'interprétation que nous connaissons bien, qui est le « Gezera Shava ». Selon les traditions juives, on prend un mot et on voit où il est ailleurs dans l'Écriture. Et ce « Gezera Shava » autorisait, à cause de ce passage, et Dieu le bénit, Dieu, et il dit « bénit Abraham pour Dieu le Très-Haut qui a produit les cieux et la terre ». Et donc le mot est le même, et donc il y avait une autorisation, je dirais, scripturaire, à cause de Genèse 14, 19, de traduire « ektissé » en grec, qui veut dire « créer », puisque « produire », »,« créer », c'est un mot qui est tout à fait valable. Mais c'est vrai que aussi en Genèse chapitre 4, donc au début du chapitre 4, verset 1, eh bien, on nous parle de la création de Cain. Et c'est Ève elle-même qui dit « J'ai acquis Cain, un homme, auprès du Seigneur ». Et c'est le même verbe « kanati » qui est utilisé donc en Proverbe chapitre 8. Donc il était tout à fait légitime aussi de traduire le mot « acquérir », le mot « posséder » comme fait saint Jérôme. Donc deux traductions étaient possibles. Alors vous me direz « Mais comment ça se fait que Dieu, qui est l'auteur de la Bible, soit comme ça capable de donner des mots dans lesquels on peut aller dans un sens ou dans un autre. Et d'où cela vient? Eh bien, c'est tout simplement que la sagesse de Dieu est toujours beaucoup plus grande que nos pauvres intelligences. Et je vous lis ce passage du psaume 62. « Une fois Dieu a parlé, deux fois j'ai entendu. Ceci, que la force est à Dieu, à toi Seigneur l'amour, et cela, toi tu paies l'homme selon ses œuvres. » Et donc, il y a la possibilité, quand Dieu parle, qu'on entende deux fois. Et donc, la traduction de la Septante était tout à fait, bien sûr, un courant possible, mais il y a aussi la traduction de Saint Jérôme qui respecte davantage, je pense, moi, étymologiquement, le mot qui est utilisé dans le Bereshit. Et donc, du coup, nous avons, je crois, là, deux traditions qui, sans être nécessairement toujours convergentes, peut pousser dans le retranchement et les chrétiens et les juifs en particulier de voir que cette sagesse qui est de Proverbe 8:22 pourrait bien être côté juif la Torah et côté chrétien eh bien les règles de la création, les règles de la vie, et c'est le logos pour nous, c'est-à-dire le Verbe de Dieu.
Et le Verbe incarné.
Et du coup, le Verbe incarné.
Ephraim Teitelbaum, qui est la lecteur juive de ce verset 22 du chapitre 8 des Proverbes.
Alors, voilà, donc, ce qui a été exposé là. D'abord, le Père d'Ivry est une personne d'une extrême honnêteté. Ce n'est pas un compliment du tout, c'est un fait, donc je ne suis pas turiféraire ni rien du tout. C'est la réalité. Pourquoi? Mais parce qu'il présente, comme on l'a vu, et ça m'a fait plaisir, il a présenté plusieurs positions, ça s'appelle la dracha, ça s'appelle l'érudition, et la sagesse. On y est, et j'apprécie énormément ce qui vient d'être dit. Maintenant, concernant le judaïsme, la Septante, c'est-à-dire la traduction en Alexandrie,
en grec, donc.
De l'hébreu en grec, pour nous laisse à désirer. Je vais donner un exemple très connu, dans les 10 commandements, qui sont les 10 verbes, à celles à 10 brotes, les paroles, il n'est pas écrit « tu ne tueras point ». Il est écrit « tu ne commettras pas d'homicide. » La différence est énorme, bien entendu. Tuer, c'est un accident, par mégarde. Assassiner, c'est autre chose. Il y a une intention derrière. Et d'ailleurs, la loi française, qui dérive de la loi biblique, elle les reconnaît. Et bien sûr, la peine pour les criminels qui assassinent et les imprudents qui tuent, elle est bien entendu différente. Mais ce n'est pas la seule différence. Et c'était dit ici. Mais les mots ici, 22, c'est Kanani. M'a acheté. L'iknot, c'est acheter en hébreu. Hein? Posséder. Et justement, ce que dit Abraham et ce que dit Chava, Ève, montre qu'est-ce que Dieu voulait dire. Et c'est assez clair pour nous. Et il a dit quelque chose de très important, puisqu'il a présenté honnêtement les positions de tradition. C'est-à-dire que les chrétiens s'attachent à ces versets en disant c'est Jésus, bien qu'il ne soit pas nommé. Il y a un autre chapitre qui est une vedette. Dans le christianisme, c'est Isaïe 53, que déjà, dans la dispute de Barcelone, les Ramban, avec Jem II, le roi, et donc, a discuté contre les moines bénédictins et un converti, qui était, lui, disait, mais moi, je suis ancien juif, donc je sais de quoi je parle. Donc, il était détruit par Ramban et, au début du XIIIe siècle. Et toute la discussion était sur Isaïe 53, Nun Gimel. On comprend très bien. Et il a dit, assez rapidement, pour les chrétiens, c'est Jésus, pour nous, c'est la Torah. Il ne faut pas oublier qui écrit ça. C'est Salomon, roi de David. Il n'est pas prophète, comme disent certains, c'est une stupidité crasse. Il est tout simplement roi. C'est-à-dire, il a les pouvoirs. Et il avait un prophète à côté de lui qui s'appelait Nathan, qui n'arrêtait pas de l'engueuler en permanence. Et il y avait de quoi. Il s'est marié avec énormément de femmes, beaucoup de païennes. Toute la sagesse de Salomon, elle est phénoménale. Il savait parler toutes les langues, il parlait aux animaux, mais il s'est oublié lui-même. Et de quelle manière? C'est le paradoxe humain aussi. Pourquoi? Et parce qu'il était aussi un roi. Lorsqu'il s'est marié avec la fille de Pharaon, qui est une païenne, bien sûr, pourquoi il le fait? Il le fait pour des raisons politiques, géostratégiques. Il ne le fait pas parfois, ni par amour, ni rien du tout. Et donc, il est la caricature de lui-même et de sa sagesse. Je parle en tant que juif, mais bien entendu, beaucoup de respect. Et sa sagesse, elle est valable. Mais... Donc, pour nous, ce n'est pas Jésus, c'est la Torah. C'est-à-dire, la Torah était avant tout. La loi, pourquoi? Mais parce que la loi de Dieu, elle est Dieu. Elle n'est pas autre chose. Alors, les chrétiens, tout de suite, vont me dire, et je suis d'accord avec lui, oui, mais Jésus est Dieu. Ben voilà. Donc, c'est QFD. Bien sûr, nous n'allons pas discuter et nous disputer là-dessus. Moi, je respecte la foi chrétienne, mais je donne juste ce qu'on nous demande ici. C'est notre vision, les uns et les autres, par rapport au même texte.
Donc, la sagesse, pour un juif, c'est la Torah. On peut le dire.
Voilà, c'est Dieu.
C'est Dieu lui-même.
Oui, Frère Edouard. Mais nous sommes tout à fait d'accord avec cette lecture. La lecture juive de la Bible, disait le cardinal Joseph Ratzinger quand il était préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, eh bien, la lecture juive de la Bible est une lecture possible qui se trouve en continuité avec les saintes écritures juives de l'époque du Second Temple, une lecture analogue à la lecture chrétienne, laquelle s'est développée parallèlement. Et c'est pour ça qu'il y a deux traditions qui ont les mêmes racines, qui ont les mêmes textes. Et pour nous, c'est clair que quand je dis Jésus et la Torah, moi, je reconnais tout à fait mes grandes traditions. Tous les textes que j'ai des premiers pères ne cessent de me dire que Jésus est la Torah vivante. Je vous lis, par exemple, quelques textes des pères de l'Église qui sont quand même assez étonnants que nous avons reçus dans la tradition chrétienne. Et il y a donc des allusions sans cesse présentes à cette vision des choses. Je vous lis par exemple ce que dit Saint Basile, Basile le Grand. « Certains interprètes, ceux qui ont trouvé avec plus de bonheur la signification des mots hébreux, ont traduit donc Proverbe 8:22 que nous évoquons depuis le début de cette deuxième partie de notre émission. « Il m'a acquise » au lieu de « il m'a créé ». Voilà qui sera un très grand obstacle au blasphème des Ariens sur la créature, parce que les Ariens disaient à partir de cette traduction de la Septante, cette deuxième façon de traduire, il m'a créé, donc Jésus est créé, donc Jésus n'est qu'un homme. Vous comprenez? Et non pas que Jésus aurait été généré du Père, aurait été comme la Torah générée du Père. Car, ajoute Saint Basile, celui qui a dit « j'ai acquis un homme grâce à Dieu » s'est manifestement servi de ce vocable, non pour avoir créé qu'un, mais pour l'avoir engendré. Et voyez, tout là est le génie de ces pères qui ont bien compris l'Écriture, qui ont bien compris où était la dispute et qui sont allés vers le sens donc, de ce que nous venons d'entendre à travers donc, cette lecture, je dirais, que Saint Jérôme authentifiera d'une manière tout à fait légale. Mais nous avons déjà, chez les premiers auteurs, je dirais, des targoums.
Traductions.
Des traductions donc, très belles. Je vous lis par exemple dans le Targum Neophiti, eh bien, 2000 ans avant d'avoir créé le monde, Dieu avait créé la Torah. Il avait arrangé le jardin d'Éden pour les justes et la Géhenne pour les méchants. Donc pour moi, quand je lis « il a créé la Torah », je retrouve mon texte et je dis « c'est Jésus, c'est le Verbe incarné, c'est le Verbe qui va s'incarner ». C'est le logos primitif. Quand je lis Talmud, Babylone, Pécharim 54a, « Sept choses furent créées avant que fût créé le monde, et les voici, la Torah, la repentance, le jardin d'Éden, la Géhenne, le trône de gloire, le temple saint et le nom du Messie, la Torah, car il est écrit, le Seigneur m'a fait sienne, commencement de sa voix. » Proverbe 8:22. Et je retrouve donc notre Talmud qui nous met tout à fait en correspondance.
Babylone.
Et je l'ai ici.
Ephraim Teitelbaum, est-ce que vous allez dans le sens du frère Edouard, là, sur ce qu'il vient de dire?
Ah, tout à fait, oui. Ça me fait beaucoup plaisir. D'ailleurs, ils ne peuvent pas voir nos auditeurs, mais je souris.
Vous avez l'air très réjoui.
Ah oui, je suis très réjoui. D'abord, je vais vous dire. Je me réjouis parce que j'aime entendre, ça m'échange, des conversations régulières dans la journée, ça m'échange. Écouter un peu de bon sens et un peu de chokhma, sagesse, ça nous fait plaisir, même si c'est une petite heure le matin. Mais on commence bien la journée.
Ça y fait beaucoup.
Oui, c'est énorme. Donc, permettez-moi de sourire et d'être content. Parce que j'entends avec gourmandise ce que dit le père Édouard d'Ivry, vraiment. J'aimerais ajouter quelque chose de manière générale. De tout cela, on voit et on constate une chose, c'est que le christianisme n'a pas inventé le terme amour, il n'a pas inventé la notion du Messie. Tout cela, ce sont des notions juives. Et voilà pourquoi nous nous retrouvons. C'est-à-dire que d'où vient la notion de l'amour? Lorsque dans la Torah, on parle de la création, on parle des relations avec l'être humain, on parle même des déluges, Sodome et Gomorre, c'était les punitions pour des comportements odieux entre qui et qui ? Entre homme et son prochain. C'est là où Dieu nous punit. C'est pour ça que dans le judaïsme, il n'y a pas de guerre sainte. Guerre sainte, ça veut dire quoi ? Combattre pour Dieu, il est si faible. Il a besoin que nous combattons pour lui. Il y a les guerres justes, les guerres de défense. C'est ce qu'a fait Israël aujourd'hui, comme toujours, le peuple juif. Mais il n'y a pas de guerre sainte. Dieu n'a pas besoin de nous pour le combattre. Il nous a créés avec amour. Mais là, on se retrouve. Hein. Je ne pense pas que je vais être contesté violemment maintenant. Et deuxièmement, les messies, c'est-à-dire le sauveur, Mashiach, loin, qui était loin. Le roi d'Israël était loin. Le premier qui a loin un roi était le prophète Samuel. Il a loin Shaoul, Saul. Et après, il a loin, bien sûr, le roi David, avec l'huile sainte, enfin, l'huile d'olive. Et au nom de Dieu, on disait, vous savez, que Cyrus II le Grand, qui a permis à Ezra, les scribes, il n'était pas prophète, les scribes Ezra, Sopher, de construire le deuxième temple au début du VIe siècle, avant notre ère, on l'a appelé le Messie, loin, pour cette action-là. Et donc, je voulais juste remettre les choses. Ça n'est pas du tout une contradiction avec le christianisme, comme vous pouvez voir. Hein. Mais la notion du Messie n'est pas née dans les vides sidérales, Mashiach, et la notion de l'amour, c'est-à-dire de Dieu pour nous et pour sa création, ce sont des notions juives pures sur lesquelles Jésus, né dans le judaïsme, voyez ma phrase, la terminologie que j'ai faite, né dans le judaïsme, hein, et toute sa famille et tout son environnement, tous étaient juifs. Pas un seul qui était grec, romain ou autre chose. Ils étaient tous juifs. Et juifs, pharisiens. Tous étaient pharisiens. Jésus aussi. C'est de ces traditions-là. Il n'était pas sadducéen. Hein. Donc ça, je voulais remettre les choses. Voilà pourquoi nous sommes d'accord.
Pour oui. Terminer peut-être, frère Edouard, juste une citation de saint Paul dans la lettre aux Corinthiens qui déclare que Jésus est Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Ça va tout à fait dans le sens de ce que nous venons de dire.
Tout à fait. On peut même ajouter l'épître aux Colossiens. Lui qui est image du Dieu invisible, premier-né vis-à-vis de toute la création. On retrouve ce prototokos et prototokos est un mot féminin puisque la sagesse est féminine. Mm-hmm. Rorma. C'est féminine. Et donc c'est très beau parce que saint Paul l'appelle lui-même prototokos, c'est-à-dire le premier d'une certaine manière né, non pas seulement le premier engendré. Et dans la tradition prophétique, et les prophètes aussi étaient Ouin et Élie, Ouin Élisée par exemple, et les prêtres aussi étaient Ouin. Il y a toute une tradition d'onction des prêtres, prophètes et rois. Et pour nous dans le christianisme, donc, il y a une concentration sur Jésus de ces trois, je dirais, lignées, trois munera, comme on les appelle, prêtres, prophètes et rois. Et donc, Jésus est celui qui cumule, qui accomplit ces écritures dans notre foi chrétienne. Mais nous comprenons très bien qu'il y ait des méthodes juives traditionnelles d'argumentation sur lesquelles nous sommes, nous aussi, en consonance. Et ces traditions, c'est le midot, les règles telles que Hillel a déjà dû les exprimer très tôt dans l'histoire du judaïsme. Et bien, nous nous appuyons, comme nos amis juifs, sur le Kalva Homer, sur ce que je disais tout à l'heure, le Gezara Shava. Et c'est à cause de ces règles, dans le fond, que nous avons en commun, que nous pouvons nous entendre, tout en divergeant finalement sur la conclusion. Mais nous avons les mêmes règles. Et nous sommes donc très proches, je dirais, deux traditions, elles sont distinctes, on ne peut pas dire qu'elles sont les mêmes, mais une orientation commune.
Eh bien, en parlant de conclusion, je vais la laisser pour cette émission à Ephraim Tettelbaum. Alors, pour conclure.
Pour conclure, je dirais la même chose que disait le père d'Ivry. Et c'est-à-dire qu'en effet, il est quand même sain qu'on reste deux traditions. La sagesse juive et la tradition juive ont une importance capitale, y compris pour le christianisme. Vous savez, les papes d'Avignon ont protégé les juifs du contat vénécien. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont compris que si on élimine les juifs, le christianisme s'effondre. Si le peuple juif, le peuple de Dieu, de la Torah, de la Bible disparaît, le christianisme n'a aucun sens, mais aucun.
Parce qu'on tarit la source.
Mais parce que vous n'avez pas de lignée, le roi David est mort, donc Jésus, fils de David, n'existe même pas. Donc si vous voulez, les sages chrétiens et les autorités chrétiennes durant les siècles ont compris ça. Et donc la synagogue battue et l'église triomphante, c'est une image, je pense, déformée, y compris de la foi chrétienne. Elle n'a pas besoin de ça, puisque si c'est comme ça, alors il faut se poser la question, êtes-vous si faible que vous avez peur de l'autre? Non, moi je ne le pense pas. Je pense que la foi chrétienne a suffisamment de force en elle-même. Et lorsqu'elle boit de la sagesse juive qui est sa base, c'est ses parents, c'est sa lignée. Donc si David et Salomon n'existaient pas, qu'allez-vous lire dans l'église lors de la messe? Où est les psaumes? Où sont les psaumes? Où sont les prophètes? Je n'ai jamais entendu à l'église citer des prophètes hindous ou, je ne sais pas moi, des Caraïbes ou de la forêt profonde des Saxons. Non, tous sommes des prophètes juifs et bien juifs. Vous voyez? Donc, ça, c'est très important. Et pour finir, puisque le temps arrive, je souhaite aux juifs et aux chrétiens bonne fête de Hanouka. C'est une fête de lumière. C'est une fête de lumière pour nous tous. C'est la victoire des Maccabées contre les païens grecs syriens. Et au IIe siècle avant notre ère, rétablissement du temple, son nettoyage, sa sainteté, l'indépendance de l'État juif avec la dynastie Hachmonéenne. Et je souhaite bonne fête de Noël à nos amis, à nos frères chrétiens. Bonne fête et beaucoup de joie et beaucoup de bonheur à ces amis que nous aimons.
Éloi.
Cette année 2024, il y a coïncidence entre Hanouka et Rag Sameach, mon cher Ephraim.
Toda.
Et en même temps, bonne fête à Noël. Donc coïncidence de Noël et de Hanouka, exceptionnellement le même jour.
Et bien voilà une parfaite conclusion à ce numéro, le deuxième de cette série que nous consacrons aux traditions juives et catholiques, à leur regard croisé sur les textes bibliques. Merci beaucoup à tous les deux, Ephraim Tettelbaum et Édouard Divry. Nous aurons l'occasion de poursuivre nos dialogues en 2025. Cette émission était animée par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Très bonne journée à tous, joyeux Noël et bonne fête en famille. Vivante Église vous donne maintenant rendez-vous la semaine prochaine.